Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin Julie, comment l'armée ukrainienne a-t-elle repris l'initiative ?
Oui, hier encore, Kiev annonçait de nouveaux succès militaires près de la frontière russe et affirmait avoir repris l'équivalent de 7 fois la superficie de Kiev en un mois. C'était avant que l'armée russe n'entreprenne des frappes massives sur tous les fronts hier en fin de journée. Des bombardements dont nous savons encore peu de choses ce matin. La contre-offensive ukrainienne dès la fin août sur le front de Kherson dans le sud, à quelques kilomètres de la mer Noire, et quelques jours plus tard, le 6 septembre, à Kharkiv, dans le nord-est, près de la frontière russe. Cette contre-offensive a été fulgurante. Alors certes, elle a profité des faiblesses de l'armée russe, épuisée, mal préparée, encore moins bien coordonnée. C'est une question aussi de commandement, et qui avait concentré ses efforts sur Kherson, tombant ainsi dans le piège ukrainien. Mais comment l'armée de Kiev s'est-elle si vite ressaisie ? Elle qui souffrait avant la guerre d'un manque de moyens, d'un manque de dialogue, d'une incapacité à se réformer et dont on pensait qu'elle ne serait jamais en mesure de manœuvrer de grandes unités. Bonjour Joseph Henrotin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue chargé de recherche au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux. Vous êtes par ailleurs rédacteur en chef de la revue de défense et sécurité internationale. Joseph Henrotin, quand on parle de contre-offensive, et là en l'occurrence s'agissant de Kharkiv, qu'est-ce qu'il recouvre ce terme exactement ? Est-ce que on a eu affaire à plusieurs offensives de grande ampleur ou de multiples petites attaques ? Combien de soldats ont été mobilisés ? Des chars, des véhicules légers ? Qu'est-ce qu'on peut dire pour préciser ce terme de contre-offensive ?
Alors effectivement, il y a à la fois une série de petites attaques, mais en un nombre tel et sur un développement tel que finalement on a des effets qui se placent au niveau non plus tactique, le combat localisé, mais au plan opératif, c'est-à-dire au niveau du théâtre d'opération. Et donc pour cela, les Ukrainiens en fait ont utilisé manifestement au moins 3 brigades, dont la 92e, la 93e, dont on savait qu'elles étaient assez expérimentées. Déjà dans une première retraite de Kharkiv qui s'était produite à la suite, un petit mois, quelque chose comme ça, après le retrait des forces russes qui cherchaient à prendre Kiev. Et qui ont été appuyés certainement par de l'aviation, des drones, mais aussi des forces spéciales. Et donc tout cela, si vous voulez, a créé un effet de houdard, un effet de choc systémique sur cette partie en fait des prises russes, donc sur le théâtre nord, celui qu'on retrouve donc au nord des républiques séparatistes.
Donc l'armée ukrainienne s'est déplacée aussi au sol par petites unités. L'une, par exemple, a commencé par avancer vers Balaklia par le sud. Elle est passée par le village de Vilkoufatka qu'elle a récupéré, puis par les forêts. Il n'y a pas eu des combats au sol partout, par ailleurs, mais des bataillons de chars, des forces spéciales en véhicules légers aussi. Tous les moyens mécanisés ont été employés.
Oui, manifestement. On en sait encore peu finalement, mais de ce qu'on voit au niveau des différentes vidéos qui ont été plus ou moins rendues publiques, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des combinaisons de modes d'action. Donc effectivement, parfois des infiltrations avec de petites unités, quelques véhicules légers, puis peut-être une section ou deux de soldats, et puis parfois des bataillons entiers sur des zones qui étaient réputées plus tenues, on va dire, par les Russes. Donc il y a une économie des moyens qui a été mise en œuvre par les Ukrainiens. C'est un principe de la guerre finalement assez classique. On s'adapte à la résistance potentielle de l'adversaire. Et in fine, l'affaire a plutôt bien fonctionné parce que le but finalement de cette contre-offensive, c'était Kupiansk, la grande ville de Kupiansk, donc sur la rivière Roskilde, qui est d'abord et avant tout un énorme centre, un gros centre en termes de lignes de communication, de lignes de communication ferroviaire, routière. Et à partir du moment où Kupiansk tombait, Izium, bien plus au sud, était vulnérable, et Izium ne demandait plus qu'à être cueilli, là aussi, par d'autres branches, si vous voulez, de la contre-offensive dans la région de Kharkiv.
Voilà, les Ukrainiens ont vraiment visé la chaîne logistique russe. Alors, Joseph Henrotin, avant que ne commence l'offensive russe du 24 février, et même au tout début de la guerre, on disait l'armée ukrainienne plutôt mal préparée, formée à la guerre de position dans le Donbass et confrontée à une nouvelle réalité militaire, une guerre de mouvement. On disait aussi que les commandements étaient trop étanches les uns aux autres pour réussir rapidement à mettre en place une véritable stratégie. Que nous apprennent ces deux contre-offensives sur la manière dont l'Ukraine a finalement mis au point une stratégie ?
Et en fait, manifestement, l'Ukraine s'est réformée. Alors, l'Ukraine n'avait pas tout dit. Hein, elle avait bien caché son jeu avant le début même de la guerre. Et autant, effectivement, il n'y avait pas trop d'inquiétude sur les qualités du soldat ukrainien en termes de rusticité, en termes de combativité, etc. Autant, il y avait des inquiétudes sur les aptitudes à jouer du combat interarmé. Hein, c'est-à-dire entre l'armée de terre, l'armée de l'air, de combiner ensuite tout ce qui était infanterie, cavalerie, etc. de manière à produire, pour le coup, des effets opératifs. Il y avait une vraie inquiétude par rapport à cela. Alors, ce que cette contre-offensive nous montre, c'est que manifestement, les Ukrainiens, de ce point de vue-là, soit ils se sont réformés, ils ont été bien conseillés, mais en l'occurrence, ça ne fait plus de doute. Il y a une vraie réflexion de niveau opératif, avec derrière ça une vraie planification. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de vrais états-majors qui travaillent effectivement de manière décloisonnée, hein, beaucoup moins étanche. Avec, pour le coup, une vraie intégration des feux et de vrais effets. Alors évidemment, on ne peut pas présager de la suite, mais en l'occurrence, tout cela a bien produit des effets. Et en l'occurrence, ce qui a été gagné, on va dire, en termes d'efficacité opérative, sera potentiellement mis en œuvre par ailleurs.
Alors, on sait parmi les indices qui prouvent combien ces opérations ont été planifiées, Joseph Orentin, les soldats russes ont tous reçu des SMS en leur demandant de se rendre avant la contre-offensive ukrainienne. Par ailleurs, on imagine, sans qu'on ait vraiment d'informations là-dessus, que les Américains ont beaucoup aidé, et même de façon continue, hein, en termes de renseignements. Une aide aussi à la planification, vous le disiez. Quel est le rôle du commandement ukrainien dans cette guerre? L'Ukraine salue déjà ses héros, des noms émergent, comme celui du général Oleksandr Sirski, commandant de l'armée de terre qui a mené cette contre-offensive dans la région de Kharkiv, ou le général Valery Zaoujny. Quelle est pour vous la part de réussite du commandement militaire et celle des soldats, comme on dit, au contact?
Alors en fait, une armée, c'est un système. Donc en fait, c'est complètement interdépendant. Un commandement, même le plus brillant de l'histoire de l'humanité, ne peut rien sans des soldats au contact. Et des soldats au contact, et on le voit bien dans le cas russe, s'ils ne reçoivent pas des ordres et des directions à prendre, etc., fondamentalement, ne produisent pas d'effets militaires. Là, en l'occurrence, le fait que l'Ukraine soit passée sur une approche qui soit véritablement opérative, c'est-à-dire qu'on n'en est plus à défendre spécifiquement telle localité, etc. Mais au contraire, on pense l'ennemi en système, système qu'on va pouvoir frapper sur ses arrières. C'était toute la question de l'emploi, notamment des lance-roquettes HIMARS, par exemple. La possibilité d'aller frapper, finalement, tous les systèmes de soutien russes des unités de contact, faisait que ces unités de contact se retrouvaient sans logistique, sans munitions, sans nourriture, sans carburant, et pire que tout, finalement, sans commandement, parce que les postes de commandement ont été effectivement, une partie des postes de commandement russes ont été traités dans la profondeur, et là on retrouve effectivement le rôle du renseignement. Bon, qui a afflué manifestement durant toute la guerre, hein, au profit donc des Ukrainiens. Mais encore fallait-il réussir à intégrer tout ça, si vous voulez, dans une vraie planification qui soit dynamique, parce que le renseignement change, hein, les positions changent, etc. Et donc, par définition, il faut qu'il y ait des remises à jour. Donc, il faut également que la planification elle-même soit dynamique et tienne compte des changements sur le terrain. Ce qu'on peut en dire finalement, c'est que les Ukrainiens se sont très très bien adaptés à ça. Alors, il est probable qu'il y ait eu malgré tout des aides occidentales en la matière. Mais ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que le dernier article qui a été publié par le chef d'état-major des armées ukrainiennes revient assez longuement sur les logiques de centre de gravité. Alors en stratégie théorique, en fait, le centre de gravité, c'est la source de la puissance de l'ennemi. Et dès lors qu'on commence à penser en termes de centre de gravité, on commence à penser l'ennemi en termes de système. Donc on a la preuve par écrit, entre guillemets, que les Ukrainiens sont bien passés dans une logique de niveau opératif.
Et c'était vrai aussi, dans un premier temps, la résistance dans la région de Kiev. Vous m'en parliez hier, Joseph Henrotin, c'est la vraie première victoire des Ukrainiens, même si elle est moins visible et qui ne fait pas nécessairement appel aux premiers échelons de l'armée. C'est une tactique de guérilla. Baptiste Mückensturm.
Oui, Joseph Henrotin, est-ce que l'Ukraine a formé de nouveaux bataillons au cours de la guerre et est-ce qu'elle continue à recruter des hommes tous les jours?
Alors oui, il y a de ce point de vue-là deux dynamiques très différentes entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, effectivement, dans un premier temps, a mobilisé donc un peu plus de 300 000 hommes des forces d'actives et puis un peu plus de 900 000 hommes des forces de réserve. Donc déjà, ça faisait une masse humaine, on va dire, qui était assez considérable, plus tous les volontaires qui se sont qui ont ensuite rejoint les forces. Évidemment, il y a eu des pertes. On n'en sait rien exactement. On ne connaît pas le chiffre précis parce que les Ukrainiens communiquent très très peu sur tous les aspects, d'ailleurs.
Sur les pertes.
Remarquablement discret. Mmh. Oui, tout à fait. On ne connaît pas précisément les pertes ukrainiennes, ni en termes de tués, de blessés, de prisonniers, etc. Mais manifestement, et en particulier à partir du moment où les Ukrainiens ont réagi finalement à la déclaration russe comme quoi les Russes allaient se concentrer sur le Donbass, les Ukrainiens ont dit bah, très bien, nous on va renforcer notre présence dans le Donbass, on va imposer une attrition à l'adversaire. Ça a eu un effet, et cet effet finalement c'était quelque part de fixer le conflit dans cette zone-là, et ça a fait gagner du temps à l'Ukraine. Et ce temps a lui-même été mis à profit, alors pour recevoir l'armement donné par les États européens, par les États-Unis, ce qui a permis finalement de s'approprier cet armement. Ce temps a également été mis à profit pour envoyer, notamment en Grande-Bretagne, un certain nombre de soldats pour les former. À grande vitesse, en quelques semaines. Il y a déjà plusieurs milliers de soldats comme ça qui ont été formés. C'est un processus qui se poursuit d'ailleurs pour l'instant. Et ces soldats-là, finalement, peuvent intégrer des cadres d'unités qui sont déjà préexistants. Donc on n'est plus dans la logique de la Deuxième Guerre mondiale où il fallait, pour monter une division américaine, par exemple, quelque chose comme 6 mois. On est finalement avec des hommes qui ont une bonne formation initiale, qui peuvent être injectés, si vous voulez, directement dans des unités qui sont déjà existantes.
On sait
à ce moment-là être engagés.
On sait si des soldats ukrainiens ont été envoyés en France, d'ailleurs, pour être formés.
C'est une bonne question. On n'en a pas de preuves objectives. Il est possible que pour la formation des artilleurs, notamment sur les canons César qu'on a livrés, il est possible que ce soit fait en France, oui.
C'est vrai que les Ukrainiens, les soldats ukrainiens se sont très vite accaparés ces armes qu'on leur a envoyées, dont on disait qu'ils auraient des mois et des mois avant de pouvoir les maîtriser. Alors, dans certaines villes, on voit encore des militaires distribuer dans les rues des convocations aux hommes de 18 à 60 ans pour les obliger à se présenter au bureau d'enregistrement militaire. C'est une méthode qui a d'ailleurs provoqué une pétition pour demander que soient interdites les convocations dans les lieux publics. Ceux qui ne se présentent pas risquent d'abord une amende et puis au bout de 3 fois, je crois, 1 à 2 ans de prison. Alors, Joseph Henrotin, ici et là, on compare déjà cette contre-offensive ukrainienne à 1918, quand le rapport de force est inversé à Verdun. Je vous emmènerai pas sur ce terrain de la comparaison historique, toujours très délicate, me semble-t-il, mais sur la question strictement humaine, celle du moral des troupes. On sait le travail qui avait été fait à Verdun pour rendre aux soldats le moral. On a organisé des rotations, on a augmenté les permissions, on a amélioré leur nourriture. Qu'est-ce qui est fait en Ukraine pour que sur le terrain, les hommes tiennent le choc de ces déjà 6 mois et demi de guerre ?
Tout à fait. Alors, d'abord, ce n'est pas propre à Verdun ou à 1918. C'est un grand classique dans les guerres, effectivement. Et quand on étudie à la fois l'organique, l'histoire organique, on va dire, des forces armées, on sait très bien qu'effectivement, le moral, les forces morales sont déterminantes et que donc ça a des conséquences sur la manière dont on doit traiter les soldats, en fait. Voilà. Alors, effectivement, les Ukrainiens ont assez rapidement compris que s'ils voulaient tenir dans le temps, il fallait effectivement organiser des rotations. Ils ont des forces armées qui le permettent en termes de volume de force. Donc après, il y a toute une mécanique de remplacement d'unités, etc., de permissions qui sont données et ainsi de suite. On voit bien que le serait-ce que le rôle social, évidemment, du soldat est une gratification en soi. Il défend certes son village, sa famille, ses amis, etc., mais il défend également le pays. Il y a une espèce de nationalisme tranquille chez les Ukrainiens qui fait que le rôle du soldat est clairement valorisé. Au-delà de cela, les Ukrainiens ont un gros avantage, c'est qu'ils combattent à la maison, si vous me passez l'expression. Et donc, les flux logistiques, notamment en termes de nourriture et en termes d'approvisionnement, sont importants. Il y a pas mal d'ONG, si vous voulez, il y a pas mal d'associations loi 1901, appelons ça ainsi, qui s'occupe de fournir du confort aux soldats. Hein. Soit, alors ça peut être des équipements qui vont leur être utiles, mais ça peut être également des petites bonifications, chocolat, cigarettes, etc.
Merci beaucoup. Oui, on arrive à la fin de cet entretien. Pardon, Joseph Enrotin, c'est vrai qu'on a vu dans certains villages des habitants apporter pastèques, légumes, viande, enfin tout ce qui manquait d'ailleurs à l'armée ukrainienne avant que la guerre n'éclate, puisque 65% des soldats quittaient l'armée après leur premier contrat, aussi à cause de la nourriture, mais aussi des petites soldes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Joseph Enrotin. J'appelle que vous êtes chargé de recherche au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux et rédacteur en chef de la revue de Défense et Sécurité internationale.
Merci, les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux et de nouveaux enjeux internationaux.
France Culture. L'esprit d'ouverture.